Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée jalonnée de légendes et de récits d'aventures. Le Muséum vous propose de prolonger l'exploration de l'océan avec une sélection de récits. Les Halieutiques, poème en 5 chants sur la pêche maritime, par Oppien de Cilicy.
Les deux premiers chants de ce poème scientifique du IIe siècle décrivent la faune marine et ses comportements. Découvrez comment certaines espèces de l'océan se livrent à des combats sans merci. Entre tous, l'impétueux carabosse, langouste, la murène et le poulpe se distinguent par l'implacable haine qui les anime. Ils se font réciproquement une guerre meurtrière. Entre eux, les hostilités sont toujours ouvertes au sein des mers. Leurs luttes ne connaissent point de trêve et ils se servent mutuellement de pâture. Quittant l'abri de quelques roches marines, la murène impétueuse, en quête d'une proie, s'élance au travers des flots. Bientôt, elle aperçoit le poulpe en train de ramper sur les hauts fonds de la plage. Pleine de joie, elle se précipite vers une proie qu'elle est ravie de rencontrer. Son approche n'échappe point à l'œil du poulpe. Éperdu, celui-ci se trouble et entre aussitôt dans une grande frayeur. Comment pourrait-il échapper, pauvre reptile qu'il est, au furieux élan de la murène qui le poursuit à la nage? Déjà, elle le tient. Déjà, elle a refermé sur lui ses cruelles mâchoires. En dépit de lui-même, le poulpe se voit contraint de soutenir une lutte meurtrière. En lassant le corps de son ennemi, il varie, par mille flexions diverses, les nœuds de ses tentacules qui lui servent de courroie. Avec tant de liens, il espère arrêter les efforts de la murène. Mais non, point de remède à ses maux, point de salut possible. En effet, toutes les étreintes sont impuissantes. Grâce à sa peau visqueuse, l'agile murène échappe facilement, comme l'eau qui coule entre les doigts. Cependant, le poulpe enlace tour à tour et le dos moucheté de la murène, et son col et l'extrémité de sa queue. Parfois même, il applique ses ventouses à l'entrée et à l'intérieur même de la gueule. Ainsi, versé dans les secrets de la lutte où se déploie la force des membres, deux adversaires font assaut de vigueur. Déjà, une sueur tiède coule à grands flots de leur corps. Mais tous les stratagèmes demeurent impuissants. Les mains glissent et leurs étreintes sont vaines. C'est ainsi que, privés de leur puissance ordinaire, les tentacules du poulpe se fatiguent dans une lutte qui n'aboutit à rien. De ses dents pointues, la murène le met en pièces et le dévore. Certains membres sont déjà dans l'estomac, d'autres encore dans la bouche, sont broyés par le rapide mouvement des mâchoires. D'autres, à demi dévorés, palpitent et se contournent. Ils remuent encore et l'on croirait qu'ils cherchent à fuir. C'est ainsi que sont mis en pièces les membres divers du malheureux poulpe. Si féroce que soit la murène, elle devient pourtant la proie du carabosse et périt victime de sa propre ardeur belliqueuse. Se plaçant tout près de la roche au sein de laquelle habite l'impétueuse Murène, le Carabos dresse en l'air ses deux aiguillons. Il respire la guerre et provoque au combat son ennemi. On croirait voir un guerrier d'élite, habitué à combattre en avant des autres, plein de confiance dans la vigueur de ses bras, dans son expérience de la guerre. Il a revêtu son robuste corps d'une armure qui en double la force. Et, agitant sa lance aiguë, il défie au combat celui des ennemis qui voudra s'avancer à sa rencontre. Bientôt, en effet, ses provocations ont attiré un adversaire digne de lui. C'est ainsi que le Carabos aiguise la colère de la Murène. Celle-ci ne se refuse pas longtemps à la bataille. Son corps noirâtre s'élance avec impétuosité du fond de sa retraite. Faisant onduler son col et palpitant d'une violente colère, elle vole au-devant de l'ennemi. Mais ses atteintes, si furieuses qu'elles soient, n'ont aucune prise sur une cuirasse rugueuse. Elle y fatigue inutilement ses mâchoires et s'acharne en vain à la mordre. Ses dents, malgré leur force, ne peuvent réussir à l'entamer. Ce rempart les repousse comme le ferait la pierre la plus dure et déjoue tous leurs efforts. Cependant, son cœur farouche bouillonne en proie à la fureur. Enfin, le Carabos, fondant sur son ennemi, la saisit entre ses longues pinces par le milieu de la nuque. Il la serre, il la tient en respect comme pourrait le faire une tenaille d'airain, et ne lâche pas sa prisonnière qui, pour s'enfuir, se démène sans profit. Torturée par cette pression douloureuse, éperdue par la souffrance, la Murène contourne son corps en mille replis obliques. Enfin, tout de son long, elle s'enroule autour du dos hérissé du Carabos. Mais les aspérités, les pointes aiguës de la cuirasse lui entrent dans le corps. Criblée de blessures, déchirée par ses propres efforts, elle périt victime de son imprudence et fournit à la voracité du Carabos une délicieuse pâture. Malgré la dureté de son enveloppe, malgré son agilité, le Carabos devient la proie du poulpe, dont les forces sont bien moindres et dont l'allure est si lourde. Quand il voit le Carabos en train de se reposer sans défiance au pied de quelques roches, le poulpe s'élance à la dérobée sur son dos, l'enlace de mille nœuds, le serre dans les longues spirales de ses bras robustes et, à l'aide de ses dernières ventouses, lui comprime et lui ferme la bouche, ce conduit de la chaleur vitale. Arrêtant ainsi l'entrée et la sortie de l'air, il continue sans relâche à peser sur son ennemi. Le Carabos se met à la nage. Tantôt il s'arrête, tantôt il palpite, parfois même il se brise contre la pointe des rochers. Mais le poulpe ne s'arrête pas dans son œuvre de violence, jusqu'à ce que la mort ait éteint la force et le souffle de sa victime. Alors, bien tranquille auprès du cadavre échoué sur le sable, il en dévore les chairs. Opérant une succion, le poulpe attire dans sa bouche les chairs qui remplissaient cette cuirasse aux pointes aiguës, et il se gorge d'une douce nourriture. Parmi les habitants de la mer, ces trois races-là surtout se font avec acharnement une impitoyable guerre. Chacune d'elles expie ses meurtres sous les coups de l'une des deux autres. C'est là ce qui les distingue.
Extrait du livre « Les halieutiques, poème en 5 chants sur la pêche maritime » par Oppien de Cilicie, traduit par E. J. Bourqui et édité en 1877 par A. Ponceau et P. Brodard à Coulommiers. Lecture par Paul Bouffartigue. Source gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.